pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, l'agroécologie, cette manière de cultiver en respectant les écosystèmes naturels, est aujourd'hui reconnue par tous comme la méthode agricole la plus durable, quelles que soient les latitudes. L'association Terre et Humanisme fait partie des pionniers dans la divulgation de ces techniques en France et à l'international. Terre et Humanisme fête ses 25 ans, l'occasion de faire le bilan avec sa présidente dans un instant. Puis nous vous emmènerons sur l'île habitée la plus isolée du monde, à 3500 km des côtes chiliennes, sur l'île de Pâques. Vous savez, c'est cette île qui abrite ces gigantesques visages gris sculptés dans la pierre, les fameux Moais. Bienvenue dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent sur RFI.
Terre et Humanisme fête ses 25 ans. Terre et Humanisme, c'est un réseau qui soutient et transmet l'agroécologie dans le sud de la France, au Mas de Beaulieu, en Ardèche, et dans sept pays d'Afrique de l'Ouest et du pourtour méditerranéen, Maroc, Algérie, Palestine, Bénin, Mali, Burkina Faso et Togo. Bonjour Françoise Vernet.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes la présidente de Terre et Humanisme. Joyeux anniversaire.
Merci.
Alors l'objectif de Terre et Humanisme, c'est donc de transmettre l'agroécologie en France et sur le continent africain. L'aventure a débuté en Afrique avec le paysan écrivain Pierre Rabhi dans les années 80. Alors je vous propose tout d'abord d'écouter sa définition de l'agroécologie.
L'agroécologie est inspirée en quelque sorte par les lois de la vie. Les lois de la vie, c'est quoi ? C'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, elle rentre dans le processus qui, depuis les origines, c'est-à-dire de la planète, quand la couche de terre s'est constituée, à laquelle nous devons notre nourriture, et même en prenant l'aspect général ou les mécanismes généraux de la survie, c'est qu'on ne peut pas cultiver la terre et l'épuiser. C'est pour ça qu'on a introduit en quelque sorte l'exploitation agricole. On est passé par exemple d'une agriculture où les fermes étaient polycultures, où c'était des petits écosystèmes qui fonctionnaient, présence des animaux, etc., à une espèce d'industrialisation de l'agriculture. Et donc de ce fait, on est passé du paysan à l'exploitant agricole. Et l'exploitation, elle dit bien ce qu'elle dit. Mais elle relève aussi de loin d'une vision de la planète. Au lieu de regarder la planète comme une magnifique oasis de vie, on la regarde comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier animal, au dernier poisson, etc. Et donc l'humanité est rentrée dans cette notion d'exploitation. Et l'agriculture, aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, elle produit, mais elle détruit. C'est-à-dire qu'on a recours à énormément de chimie, alors que l'agroécologie, elle essaie d'être dans la règle établie par la vie elle-même. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et on peut définir ça comme ça.
Et c'est cette philosophie, Françoise Vernet, qui irrigue l'association Terre et Humanisme depuis 25 ans. Pour cultiver la terre, on est un paysan, pas un exploitant.
Exactement. C'est comme le dit souvent Pierre Rabhi, on parle de paysan, en fait, on fait référence au pays. En fait, c'est à la fois une personne qui est tenue par le pays et une personne qui est en lien avec son pays. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de cette nature qui nous environne. On parle de sol depuis le début, mais aussi de l'eau, mais aussi des paysages. Et donc, c'est vraiment l'intelligence de cette nature, finalement, vierge telle qu'elle a été, qui était dans une forme d'autonomie et de système. Et d'intelligence qu'on essaye quelque part de transmettre.
Alors, il faut rappeler que cette technique agricole, donc l'agroécologie, est parfaitement adaptée aux exploitations familiales. Les exploitations familiales, ce sont elles encore aujourd'hui qui produisent 80% de l'alimentation mondiale.
Clairement. En fait, aujourd'hui dans le monde, on a à peu près 1 milliard... 300 000 paysans, il faut savoir qu'il n'y en a que 40 millions d'agriculteurs ou d'exploitants agricoles qui sont mécanisés, mais tout le reste, on a 200 millions qui ont de la traction animale et plus d'un milliard qui travaillent avec la main. Donc nous, dans les pays de l'Ouest, on a une vision voilà, très spécifique de l'agriculture, mais qui n'est pas du tout celle qui est pratiquée partout dans le monde. Et qui est cette, on va dire, ces exploitations familiales systémiques, qui sont souvent en polyculture-élevage, qui sont celles qui produisent 80% de l'alimentation.
Alors la difficulté, c'est finalement la notion de modernité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une exploitation moderne? Dans la tête de beaucoup de paysans, justement, c'est peut-être accéder aux tracteurs, accéder aux produits chimiques, accéder à tout ça, parce que c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit dans les films américains. Alors qu'en fait, l'agroécologie, c'est une science, c'est extrêmement moderne.
Alors, en tant que fille d'exploitant agricole, je ne vais pas vous dire le contraire. Je pense que l'après-guerre, tout ce milieu paysan qui était quand même extrêmement important en France, aujourd'hui on a 400 000 agriculteurs, mais à l'époque il y en avait quand même beaucoup plus, rêvait de... D'abord, ils avaient une mission qui était de reconstruire, de nourrir le monde. Donc ils avaient, on va dire, une mission au-delà même de leur existence. Et ce rêve... d'équipements qui, vraiment, dans les campagnes, faisaient stature sociale. C'est-à-dire quand on a un tracteur, qu'on a la clim, etc., etc., on accède voilà, à une posture, mais qui finalement a éloigné petit à petit ces exploitants agricoles de ce qu'était vraiment leur métier. Et c'est ça ce qu'on propose, en fait, dans l'agroécologie. C'est vraiment de redevenir des passeurs de savoir, des expérimentateurs dans leur champ, des personnes qui sont vraiment à l'écoute de la nature et qui deviennent finalement des experts et non pas des personnes que l'on vient ensemencer d'idées et de croyances. C'est vraiment d'avoir... De retrouver également une dignité. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'agribashing aujourd'hui et je pense que la société civile prend conscience de plus en plus largement des méfaits de cette agriculture industrielle.
C'est-à-dire qu'il y a eu un film en France, Au nom de la terre, qui a eu beaucoup de succès dans les salles et qui montrait justement cette déconnexion entre le paysan et sa terre, à quel point les lobbies essayaient de vendre toujours plus de machines, toujours plus de produits, des élevages de plus en plus intensifs avec des paysans qui s'endettent et qui tombent dans une spirale économique qui fait qu'aujourd'hui, en France, un paysan se suicide par jour.
Oui, je crois que même les statistiques, c'est un tout petit peu plus. On parle de même deux paysans, malheureusement. Alors, juste une anecdote, c'est qu'on a sorti en avril 2013 Pierre Rabhi, Au nom de la terre. C'était le nom du film sur le parcours de Pierre et on va dire... les différentes structures et personnes qu'il a inspirées. Et c'est vrai que dans le film qui est sorti récemment...
Réalisé par Édouard Bergeon et avec Guillaume Canet comme
acteur. Fils et petit-fils. Ouais. Voilà, on voit aujourd'hui l'état actuel de notre agriculture et toute la difficulté pour être moi-même animée beaucoup par comment est-ce qu'on peut... il y a le mouvement nous voulons des coquelicots, mais pourquoi pas nous voulons des paysans, je veux dire, donc dans cette...
Nous voulons des coquelicots, c'est un mouvement qui a été lancé par Fabrice Nicolino et Pierre Larouturou pour faire en sorte qu'il y ait plus de pesticides en France. Les gens se mobilisent un peu partout en portant des coquelicots
Exactement.
Sur leurs pulls ou sur les places des marchés.
Et un des enjeux aujourd'hui, c'est que la suite, c'est nous voulons des paysans, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce qu'on nous prédit dans 10 ans, c'est-à-dire qu'il y ait moins de 200 000 paysans en France. Donc la question, c'est comment accompagner la mutation de ce secteur, hein, puisque c'est vraiment un secteur, de ces personnes qui, croyant à un modèle agricole intensif, se sont endettés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on efface les ardoises et on leur donne les moyens finalement et les outils et les compétences et l'expertise et les savoirs pour faire une mutation de leur agriculture? Parce que c'est ça la difficulté principale aujourd'hui des agriculteurs. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a une, c'est leur endettement. Il y en a deux, c'est finalement quel système économique viendra après? C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont arriver à se rémunérer décemment? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à être dans ce système d'aide, que ce soit d'aide à la conversion, d'aide avec la PAC, ou est-ce qu'il faut accompagner autrement et peut-être vendre aussi à un juste prix la production? Ce qu'on voit, c'est que les maraîchers, ceux qui font des fromages, etc., qui sont en circuit court, s'en sortent tout à fait décemment, sans avoir besoin de travailler 50 heures par semaine. Donc, je pense que tout est à réinventer, mais ce qui nous tient à cœur, c'est que c'est à réinventer avec la société civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas compartimenter. Ce n'est pas les agriculteurs d'un côté et les citoyens consommateurs de l'autre. C'est ensemble qu'il va falloir inventer et permettre ce passage, en fait.
Alors, l'agroécologie, bon, on l'a évoqué, on ne peut pas faire un cours d'agroécologie l'agroécologie comme ça à la radio, mais c'est en effet miser sur la richesse des écosystèmes naturels pour optimiser les rendements. C'est une science qui est reconnue par les milieux scientifiques comme une discipline incontournable aujourd'hui. Elle est même hissée par les autorités mondiales au premier rang des solutions face au dérèglement climatique, parce qu'il faut rappeler que l'agriculture, c'est quand même entre 10-12% des émissions de gaz à effet de serre mondiales.
Clairement. Donc c'est vrai que cette science qui relie à la fois l'agriculture et l'écologie questionne plusieurs enjeux en fait. On a un enjeu, on va dire, environnemental autour des questions des communs, donc l'eau, la terre, la faune, la flore, la biodiversité. Comment est-ce qu'on devient finalement un acteur de la reconstitution de cette biodiversité en disparition, et quelque part pourquoi ne pas récompenser ces agriculteurs qui œuvrent pour remettre de la vie dans les sols, de la vie des oiseaux, des champs, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, ça a un impact social qui est en termes de dignité, on parlait tout à l'heure des suicides, qui est en termes aussi de finalement faire partie de son territoire et ne pas voir ce qu'on produit être exporté et partir on ne sait pas où, voilà, et de redevenir acteur de la société présente. C'est un impact économique parce que on voit bien que ce type d'agriculture est très consommatrice en main-d'œuvre, et donc on peut pas dire qu'on n'ait pas de problème de chômage en France. Donc il y a aussi un enjeu aujourd'hui de recréer de l'emploi sur les territoires. Donc en fait, cette résilience que propose l'agroécologie, elle est à plusieurs volets.
Vous parlez beaucoup de la France, mais nous, sur RFI, vous savez, on parle au monde entier, notamment à l'Afrique. Donc, je vous propose de voir comment ça se passe au Burkina Faso. Bonjour, Ablassé Compaoré.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur de l'association Interzone pour le développement en milieu rural au Burkina Faso, un pays où le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l'économie nationale, puisqu'il nourrit et fait vivre plus de 80% de la population active. Alors depuis plus de 20 ans, vous travaillez à la diffusion des pratiques agroécologiques au Burkina Faso. Quels sont les résultats aujourd'hui ?
Les résultats assez satisfaisants. Avec l'évolution, en tout cas, qu'on a pu faire au fil des années. En commençant à former directement les paysans, on en sort là-dedans aujourd'hui des animateurs endogènes qui sont les relais dans les différentes zones. Et en plus de ça, il y a même les paysans aussi leaders qui en font pareil. Et donc, la force et aujourd'hui le nombre d'animateurs que nous disposons nous permet même aujourd'hui de créer clairement au niveau national, un réseau avec tous ces animateurs endogènes et avec de différentes structures, organisations qui œuvrent vraiment pour la diffusion de l'agroécologie.
Et alors, vous avez combien d'animateurs et est-ce que ça couvre tout le pays aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense oui, fin 2018 déjà, qu'on a organisé un rassemblement pour essayer de réunir tout le monde, une centaine d'animateurs qui sont bien répartis dans le pays, sur les 12 régions, sur les 13 que compte le pays.
Et alors, l'agroécologie est particulièrement adaptée aux zones semi-arides. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
La raison qui nous pousse aujourd'hui, qui fait vraiment valoir l'agroécologie, c'est effectivement la dégradation des terres. C'est effectivement, en tout cas, les terres qui perdent complètement de richesse, de nutriments pour nourrir les plantes. Et donc là, tout ce qu'on fait, en tout cas comme activité technique de récupération des espaces dégradés, et en même temps, c'est vraiment un retour vraiment avec la nature. Donc on arrive vraiment à faire passer facilement ce message-là, parce qu'en fait, nous avons, en dehors de nos formateurs que nous avons formés, des gens qui ont vécu des choses qui témoignent assez bien. Et donc, l'adaptation est vraiment prouvée, quoi.
Alors, quelles sont les causes de la dégradation des sols au Burkina Faso et comment faites-vous pour les refertiliser ?
Alors, les causes principales, en tout cas, surtout au Burkina, ici, c'est assez facile de dire que c'est la pluviométrie qui n'est plus ça, mais la pluviométrie est liée aussi à quelque chose. Donc, lors de nos formations, comme on le fait passer, vraiment cette idée, cette... Ce que nous devrions comprendre, que tous les éléments vraiment de l'écosystème sont amenés à cohabiter et à vivre ensemble, quoi. Et donc, s'il y a une partie qui se dégrade, il est évident que ben, l'autre partie également puisse être directement contaminée. Et donc, c'est ce qu'on voit avec, de par la pratique de l'homme sur la coupe des arbres, la coupe abusive des arbres, les feux de brousse qui s'allumaient comme on voulait. Quand on utilise un champ au bout de 2 ans seulement, on abandonne et puis on va sur un autre espace vraiment plus boisé pour encore commencer à couper. De par vraiment la responsabilité de l'homme, la destruction a été assez forte.
Alors très concrètement, puisque vous êtes sur RFI, on va faire un cours d'agroécologie à la radio. Qu'est-ce que vous utilisez comme technique sur le terrain pour permettre aux paysans de refertiliser cette couche extrêmement mince qui est à la surface du sol et qui peut être, si elle est bien fertile, très productive ?
Ce que nous utilisons, d'abord, c'est de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que le sol. Ça veut dire que le sol, ce n'est pas la terre sur toute la profondeur qui est vraiment visée. Mais c'est surtout cette partie arable qui contient ou qui retient vraiment tout ce qui est vie. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter cette épaisseur du sol qui est vraiment la partie arable. Et là, ça ne peut que se reconstituer par tout simplement ce qui arrive également de la nature, telle que vraiment de la fumure animaux, telle que de la paille, telle que vraiment de la matière végétale.
Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même des forces contraires au Burkina Faso hein, qui essayent d'imposer une agriculture plus intensive à base de produits chimiques. Est-ce que vous arrivez à résister à ces forces de lobby qui sont quand même extrêmement puissantes ?
Nous arrivons toujours parce que tout simplement, c'est les paysans eux-mêmes qui vivent les situations vraiment dans leur zone et qui témoignent de ce qui se passe. Personnellement, j'ai tenu une formation dans un village où on a essayé de faire une comparaison, de voir pour produire sur 1 hectare avec des produits chimiques, quel est le coût de cette production. Et puis, de l'autre côté, sur des techniques agroécologiques, qu'est-ce que ça peut coûter ? Déjà, le chiffre qui sort, c'est pas moins de 100 000 francs en tout cas pour essayer de mieux fertiliser en utilisant ces intrants chimiques qu'on ne mesure même pas les effets dans le futur. Et après ça encore, il y a des paysans qui, ici au Burkina, surtout les paysans ne font pas que cultiver. Donc autour de l'activité agricole, il y a d'autres activités telles que l'élevage, telles que l'apiculture et le reste. Il y a beaucoup de paysans qui ont perdu carrément des ruches à cause de l'utilisation des produits. Donc, les gens vivent aujourd'hui une réalité.
Donc, on a bien compris, en tout cas, que c'est plus rentable de faire de l'agroécologie que d'utiliser des produits chimiques, hein, puisque les produits chimiques, ça coûte très cher et que les rendements sont même meilleurs avec l'agroécologie. Merci beaucoup à Blaise Compaoré pour toutes ces explications. Est-ce que vous voulez dire un joyeux anniversaire à Françoise Vernet et donc à Terre et Humanisme ?
Surtout que ben, voilà, on rentre dans cette année, cette nouvelle année 2020. Je souhaite mais vraiment bonne heureuse année à toute l'équipe, Françoise Vernet, l'équipe de Terre Humanisme, et surtout, même plus large, tous les auditeurs vraiment de la radio RFI.
Eh bien, merci beaucoup. Bonne année à vous. Et on reste en contact, évidemment. À très bientôt.
OK. Merci bien, madame.
Françoise Vernet, je rappelle que vous êtes la présidente de Terre et Humanisme. On entend à travers ce témoignage d'Ablaise Compaoré à quel point, pour les pays du Sud aussi, l'agroécologie est une solution.
Elle est une solution et je pense que ce qui est intéressant dans le témoignage d'Ablaise, c'est aussi la dimension économique. Donc j'ai peut-être moins parlé sur l'exemple français, c'est qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Et ces paysans-là qui, finalement, essayent déjà de se nourrir, on ne parle même pas d'en faire un métier, qui essayent déjà de nourrir leur famille, et puis au mieux d'arriver à en tirer un revenu. Et puis, clairement, ils n'ont pas les moyens d'acheter, on va dire, tout ce que propose l'arsenal de cette agriculture intensive.
Oui, on entendait pour 1 hectare, c'est 100 000 francs CFA. C'est
exactement, énorme. Exactement. Et donc, que ce soit en Palestine, au Maroc, au Togo, enfin dans les différents pays qu'on peut accompagner, l'enjeu est toujours en fonction de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs priorités, puisque l'idée, ce n'est pas d'arriver en sauveteur. Hein. On n'est pas pompier-pyromane, comme dit souvent Pierre Rabhi, qui parle de l'humanitaire. C'est vraiment après un diagnostic territorial d'accompagner au mieux ces paysans, puisque c'est vraiment des paysans qu'on accompagne dans les pays du Sud. et d'écouter leurs problèmes. Est-ce que les composts, est-ce que les enjeux autour de l'eau, est-ce que tous ces savoirs, parce qu'en fait, là où il faut être aussi conscient, c'est qu'en fait, il y a eu une perte de savoir et de savoir-faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des migrations vers les villes, comme dans plein de pays, et la France a été exactement cet exemple aussi. Et qu'en fait, je pense que la génération, les générations d'après ont bien réalisé que la ville n'allait pas leur apporter la solution. Et il y a quelque part, entre guillemets, un retour ou un souhait de rester finalement là où on habite et d'arriver à vivre de cette agriculture et donc à retrouver des savoir-faire, à retrouver une intelligence de la nature et pas à se laisser embarquer dans les chimères que sont les OGM. Voilà, on prend un pays comme le Bénin où aujourd'hui les OGM sont toujours interdits, ce qui n'est pas le cas du Burkina. Voilà, je pense que c'est vraiment d'arriver à renouer avec ce bon sens paysan, à renouer avec ce lien à la nature et ne pas se laisser abuser par un système qui n'a pas solutionné la problématique. On a toujours un milliard de personnes qui sont quand même malnutries, on a toujours un enfant qui meurt de faim toutes les 7 secondes, et ça n'a pas changé. C'est pas vrai que depuis l'après-guerre et depuis toute cette agriculture industrielle, on est arrivé à mettre fin à ce mal.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurais des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurais des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Coin de soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel.
Redouane, l'agriculteur, dans ses pas du vent sur RFI. Nous fêtons les 25 ans de l'association Terre et Humanisme aujourd'hui avec sa présidente Françoise Vernet. À l'occasion de votre anniversaire, Françoise Vernet, vous lancez un pôle d'expertise. Alors quel en est le principe?
Le principe, c'est de se dire qu'aujourd'hui, à minima à l'échelle du territoire français, on a une appétence en fait pour l'agroécologie. Et on s'aperçoit que ce soit des communautés communes, que ce soit des individus, que ce soit, on va dire, des domaines agricoles, il y a une envie d'acquérir en fait les fondamentaux de l'agroécologie, et donc depuis plusieurs années en fait on a été amené à accompagner un certain nombre de structures, et on se dit qu'il faut aller plus loin, et en lançant un pôle expertise et en se faisant connaître et en étant capable justement de montrer les différents domaines et projets qu'on a pu accompagner, tant d'un point de vue impact écologique que impact économique, puisque c'est toujours l'enjeu, il ne faut pas se mentir, bah c'est de le diffuser plus largement. Donc c'est d'être capable aujourd'hui de contacter une communauté de communes, par exemple Rambouillet Territoire, et de voir comment on peut les accompagner, puisqu'ils ont du foncier à disposition et qu'ils ont une envie de faire une couveuse agricole, ou par exemple des particuliers qui peuvent eux aussi vouloir avoir de l'agroécologie dans leur espace. J'étais à Nantes il n'y a pas très longtemps, il y avait des habitants qui partagent une copropriété, ils ont 2 hectares, ils veulent faire un verger en même temps, du maraîchage. Voilà. Donc il y a une envie en fait de, je crois, de la société de voir cette agroécologie vivre à côté de chez soi.
De se réapproprier son alimentation.
Voilà. Aussi d'avoir un impact aussi, je pense, sur les paysages. Il y en a ras-le-bol. Enfin, moi j'habite à côté de la Beauce, c'est juste pas...
Donc la Beauce, c'est pas très loin de Paris, ce sont des champs intensifs, sans arbres, sans haies, sans rien, sans vie finalement.
Oui, enfin une croûte pas très jolie, avec une couleur assez uniforme. Et voilà, et de recréer, Pierre Rabhi parlait tout à l'heure de ces oasis de vie. Je pense que c'est de recréer ces oasis un peu partout, là où c'est possible. Alors en plus avec le changement climatique, plus ça va, plus on aura des oasis au nord, comme vous dans les pays du sud. Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là, c'est un accompagnement. Alors ça peut être très simple comme une démarche, je dirais, comme également un accompagnement plus technique. C'est vraiment de s'adapter à chaque biotope, hein, pour le coup, et à chaque demande, et y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'un domaine de 180 hectares qui veut passer en agroécologie, il faut être conscient, on est à l'échelle de la nature, les choses ne vont pas se faire en 3 mois. En revanche, il y aura voilà, plusieurs actions qui seront mises en place pour que, en fonction des enjeux territoriaux, en fonction des acteurs aussi, des parties prenantes, syndicats de l'eau, etc. On n'est pas seul. Je pense qu'il faut aussi profiter de cette agroécologie pour refaire du lien humain et pour faire en sorte que ces espaces deviennent des espaces où il y a des, où les échanges soient possibles.
Mais comment fait justement un agriculteur qui aujourd'hui a 180 hectares de céréales ou de maïs dans la Beauce pour devenir une exploitation agroécologique ?
Ben, il y va progressivement. L'exemple de Paul François sur 240 hectares est quand même très inspirante. Sur plusieurs années, vous savez, cet agriculteur qui a été victime du lasso et qui a fait le choix de faire évoluer son domaine, 240 hectares.
Ce que c'est que le lasso.
Le lasso, c'est un pesticide, en fait. Et après utilisation de ce pesticide, il a eu un certain nombre de, on va dire, d'effets secondaires, notamment neurologiques. Et donc, il a porté plainte contre le vendeur de ce pesticide et il a été reconnu comme ayant... étant dans son plein droit. Et donc, il a fait le choix ensuite de faire évoluer son domaine et de quitter cette agriculture industrielle. Alors, ça se fait progressivement. Il y a plusieurs chemins. Il y en a certains qui vont découper, je dirais, leur domaine ou leur propriété en plusieurs, en accueillant d'autres agriculteurs qui vont faire des plantes comestibles, les plantes sauvages, qui vont faire de l'élevage, qui vont faire des céréales. Donc, c'est vraiment de cette histoire de progressivité. C'est évident que l'arrêt de la chimie pour le tout naturel, il y a une évolution des terres et on n'arrive pas à avoir les rendements qu'on avait au préalable dès la première année. Voilà, d'où l'idée aussi de cet accompagnement de 3 ans sur la conversion, finalement, qui permet à l'agriculteur de petit à petit reprendre la main sur son territoire, d'acquérir, on va dire, les différentes notions. Alors, il y a des formations qui sont disponibles également. Nous, on a fait pas mal de formations à destination du monde paysan, que ce soit sur les questions de l'eau, des histoires d'installation, première installation, des histoires de démarche agroécologique globale, où en fait, on emmène voir sur le terrain. Entre pairs, c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire quand on est agriculteur et qu'on va voir un agriculteur qui est en agroécologie et qui en vit, c'est quand même ce qui est le plus parlant, beaucoup plus parlant que toutes les théories qu'on peut raconter en salle. Et donc voilà, il y a plusieurs voies d'accès. Je pense surtout qu'il faut une des choses les plus importantes de ce que des témoignages qu'on peut avoir, c'est aussi l'accompagnement finalement, parce qu'il y a côté on va dire, d'appartenance sociale, où quand on fait un choix et qu'on rupte par rapport à notre environnement, et la Beauce est un exemple, on est tout de suite stigmatisé et c'est très difficile. Donc il est primordial de se rapprocher de structures comme des GAB, des CIVAM, etc., qui savent accompagner finalement les agriculteurs sur ce chemin-là.
Là, on est dans des acronymes.
Oui, le groupement, groupement d'agriculteurs biologiques, enfin en tout cas de structures françaises qui aujourd'hui existent pour accompagner, qui sont un peu comme des associations de paysans qui existent en Afrique de l'Ouest.
Et si on est donc au Mali, au Burkina Faso, on l'entendait, vous êtes présent, vous accompagnez aussi, il faut quoi ? Contacter l'antenne locale ?
Voilà, contacter l'antenne locale. Si sur des pays, il n'y a pas d'antenne locale, parce qu'on n'a pas d'antenne locale dans tous les pays, on a des partenaires qui sont souvent des associations paysannes, mais à minima, nous contacter, nous, en Ardèche, pour qu'on puisse ensuite mettre en lien avec les personnes les plus adaptées en fonction du pays. Sachant qu'il y a beaucoup d'entraide aussi entre les pays. On va dire qu'il y a des paysans maliens qui vont aller former sur la question des semences, des paysans burkinabés. On n'envoie pas des charters de paysans français pour aller former les paysans africains qui ont le savoir et qui ne demandent qu'à le partager.
Merci beaucoup Françoise Vernet, donc joyeux anniversaire à Terre et Humanisme.
Merci beaucoup, à dans 25 ans peut-être.
Peut-être avant. C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. La pollution plastique est un fléau mondial auquel, sans faire attention, nous participons tous. Quand vous laissez s'envoler un sac plastique ou que vous jetez par terre une bouteille de soda, ils terminent inévitablement dans l'océan. Poussés par le vent, ils arrivent vers le cours d'eau le plus proche qui les charrie de rive en rive. Aucun endroit du monde n'y échappe, même l'île habitée la plus isolée au monde. L'île de Pâques, à 3500 km des côtes chiliennes, est polluée par ce que les courants marins lui apportent. Ce territoire de seulement une vingtaine de kilomètres de long doit aussi faire face à la gestion des déchets produits par ses propres habitants et par les 120 000 touristes chiliens et étrangers qui viennent chaque année admirer ces gigantesques visages gris sculptés dans la pierre, les fameux Moai. Reportage de notre envoyé spécial sur l'île de Pâques, Justine Fontaine.
En cet après-midi de printemps austral, un minibus emmène une quinzaine d'élèves d'un lycée de Santiago, la capitale chilienne, ramasser du plastique échoué sur une plage de l'île de Pâques. C'est l'une des activités qu'ils vont réaliser pendant leur voyage de classe cette semaine. Sur la route, avant d'arriver, Tavaque Pacomio leur donne quelques explications. Cette habitante de Lille est bénévole de l'association locale Temaú Otevaikava qui organise ce nettoyage de plage.
En raison de l'endroit où est située l'île, nous recevons beaucoup de déchets. Principalement des filets de pêche et des caisses en plastique jetées depuis des bateaux-usines. Ils sont apportés ici par les gires du Pacifique. Les gires, ce sont des courants naturels dans l'océan qui forment de grands tourbillons dans l'eau. Le plastique flotte et est emporté par ces courants sur de longues distances. Puis une partie de ces morceaux de plastique arrive jusqu'ici, sur l'île.
Les élèves qui chantaient à tue-tête dans le bus il y a encore quelques minutes écoutent attentivement les explications de cette bénévole de 33 ans qui est née et a grandi sur l'île.
Vous allez me dire qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Eh bien, sans les océans, il n'y a pas de vie. Et en plus, les fleuves qui se trouvent dans les villes sont pollués par l'activité humaine et se jettent ensuite dans les océans. Donc en faisant ce nettoyage de plage, on essaie de vous sensibiliser et qu'ensuite vous incitiez les personnes autour de vous à agir.
À la descente du bus, Tavaque et d'autres membres de l'association distribuent aux élèves des gants et de grands sacs réutilisables. Par groupe de 3 ou 4 personnes, les lycéens partent à la recherche de plastique sur les rochers noirs de cette petite plage.
Je m'appelle Sofia Pacheco et j'ai 15 ans.
Cette lycéenne qui vient pour la première fois sur l'île de Pâques est étonnée de tout ce qu'elle a trouvé le long de cette crique.
C'est impressionnant, cela me fait de la peine de voir autant de déchets dans un lieu si beau. Si j'étais d'ici, cela me dérangerait énormément. Toutes ces personnes qui jettent une telle quantité de déchets à la mer.
Après avoir parcouru la plage de long en large, les lycéens et bénévoles pèsent un par un les sacs qu'ils ont remplis de déchets plastiques. En l'espace d'une heure, ils ont ramassé 34 kilos de plastique qui seront ensuite apportés dans les locaux de l'association à Angaroa, l'unique ville de l'île, avant d'être envoyés sur le continent. Ludovic Burns-Tuki est le directeur de l'association Temaú Otevaikava, créée il y a 5 ans pour sensibiliser à la protection des océans et militer pour la création d'une grande aire marine protégée autour de l'île.
Bienvenue. Et voilà. Là, tu as à peu près 7 mois de nettoyage des côtes.
Toute la petite cour arrière des locaux de l'association est remplie de sacs de déchets plastiques.
Donc là, tu vois, il y a des morceaux de bouée, plastique, des tuyaux.
Mais ce qui préoccupe surtout Ludovic Burns, c'est la quantité de petits morceaux de plastique, plus petits qu'un grain de riz, que lui et les bénévoles retrouvent dans le sable de l'île.
On prend le sable et on commence à tamiser le sable. Et à ce moment-là, on retrouve du microplastique. Viens, je te montre. Et donc, il y a à peu près 6 kilos de microplastique qu'on a recollecté dans un espace de 30 minutes sur une distance de 30 mètres carrés, à peu près. énormément de microplastiques. Ça, c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter. Et c'est utopique de penser qu'on va pouvoir tout nettoyer. Nous, lorsqu'on fait les nettoyages, la vérité, ce n'est pas pour aller nettoyer les côtes. Si, bien sûr, on veut nettoyer les côtes, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal est de générer une conscience, est de générer un changement d'attitude sur notre quotidien, dire non à l'utilisation du plastique. Le plus alarmant, c'est que d'ici à 2050, il va y avoir plus de plastique que d'espèces dans l'océan.
À une centaine de mètres des locaux de l'association, les employés des centres de plongée installés dans le petit port en contrebas de la ville constatent eux aussi l'omniprésence du plastique dans les eaux qui entourent Rapa Nui, l'île de Pâques. En face des bateaux de pêche rouges, bleus et jaunes, entre lesquels nagent quelques tortues marines, voici le centre de plongée El Orca, où travaille Carla Robles.
Nous sommes dans le port Angarotai et je travaille comme monitrice de plongée au centre El Orca depuis 4 ans.
Quand vous allez plonger, vous partez d'ici. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous voyez quand vous allez plonger et est-ce qu'il y a beaucoup de plastique dans la mer ?
Cuando salimos lejos, se ve bastante basura.
Quand on va faire de la plongée relativement loin des côtes, on voit pas mal de déchets.
Y bueno, sí, debajo del agua
des bouées en plastique parfois. Et sous l'eau, on voit des microplastiques et beaucoup de sacs plastiques. C'est la première chose que l'on retire, car sinon les tortues les confondent avec des méduses et les mangent. Sur la plage, on voit des microplastiques aussi, qui pourraient ressembler à de petits coquillages. Et j'ai déjà vu des petits poissons essayer de les manger.
Avant de sortir petit à petit de l'isolement et de voir se développer le tourisme, les habitants de l'île, située à plus de 2000 km d'autres terres habitées, ont longtemps vécu presque uniquement de la pêche et les pêcheurs constatent eux aussi au quotidien l'impact du plastique sur le milieu marin.
Patricio Rey, je suis pêcheur. Pêcheur depuis ma naissance.
Est-ce que vous sauriez dire à partir de quel moment vous avez commencé à remarquer qu'il y avait plus de plastique dans la mer et remarquer aussi qu'il y avait des plastiques de plus en plus petits?
Bueno, desde antes que hay acá en la isla caen bandejas de los barcos pesqueros que pescan afuera.
Ça fait longtemps qu'il y a des caisses de bateaux usines au large de l'île.
Y es como más de 20 a 30 años más o menos.
À 500 000 marins environ, cela fait 20 ou 30 ans, je dirais.
Igual los peces a veces hay unos.
Cela s'est fait petit à petit et aujourd'hui on en voit plus qu'avant encore. Et dans les poissons qu'on pêche, parfois on trouve du plastique. Pas dans tous les poissons, certains seulement, surtout le thon.
Merci beaucoup. Muchas gracias. Au-delà de la question du plastique apporté par l'océan sur ses côtes, l'île produit de plus en plus de déchets. Rapa Nui, l'île de Pâques, ne compte que 8000 habitants, mais sa population a plus que doublé en l'espace de 15 ans. Le nombre de touristes est lui aussi en constante augmentation, avec plus de 120 000 visiteurs par an. Et l'île a bien failli être dépassée par la quantité de déchets à traiter. C'est ce qu'explique Marcos Aoa. Il est le responsable du centre de tri sélectif municipal, installé à côté d'une ancienne décharge à ciel ouvert.
Il faut se souvenir que dans le passé, les habitants géraient eux-mêmes leurs déchets. Nous n'avions pas besoin de décharge car ce que nous produisions, soit on le donnait aux animaux, soit on le brûlait. Mais au fur et à mesure que la population a grandi, la quantité de déchets a augmenté aussi et nous avons eu besoin de trouver un lieu où les jeter. Donc cette grande fosse que vous voyez a commencé à être utilisée comme décharge. Et si vous regardez, vous verrez que c'est une superposition de couches de terre et de déchets.
La décharge menaçait de polluer une nappe phréatique située à proximité. Cette situation a finalement généré une prise de conscience parmi les habitants et poussé la municipalité à changer la décharge de place et à organiser le tri sélectif des déchets.
Si on avait continué à fonctionner comme ça, sans trier, la quantité de déchets aurait tellement augmenté que nous n'aurions plus eu assez d'espace pour les stocker. Nous avons donc cherché une manière de séparer les déchets recyclables du reste. On a commencé à compacter du carton pour l'envoyer sur le continent à partir de 2014. Puis on a envoyé du plastique pour la première fois en 2015. Puis de l'aluminium la même année.
Sur place, le carton, les canettes en aluminium et le plastique sont déposés, chacun sur un tapis roulant, puis compactés par une machine. Les cubes de toutes les couleurs compactés par la machine sont ensuite stockés dans cet entrepôt. Et pour éviter la propagation du virus Zika présent sur l'île, ils sont désinfectés avant d'être envoyés par avion ou par bateau sur le continent, pour ensuite être recyclés dans des usines au Chili. Grâce à la ténacité de certains habitants et à la politique de recyclage menée par la municipalité, aujourd'hui l'île de Pâques est l'une des communes chiliennes qui pratique le plus le tri sélectif. Mais pour tenter de réduire la quantité de déchets produits sur l'île, les défenseurs de l'environnement appellent à s'inspirer de la culture ancestrale du peuple Rapa Nui. Car jusque dans les années 1960 environ, les habitants polynésiens de l'île étaient extrêmement isolés du reste du monde. Ils devaient vivre avec le strict minimum, quasiment sans plastique ou autres déchets non recyclables. Nous avons maintenant rendez-vous avec Tuti Pacomio, une habitante de l'île, âgée d'une soixantaine d'années, qui essaye de s'inspirer des traditions de Rapa Nui, l'île de Pâques, pour réduire au maximum la quantité de déchets qu'elle produit.
Quand j'étais enfant, à l'époque, vivre de manière durable, c'était une évidence. Ce qu'on mangeait, on l'obtenait directement de la nature. Mais le développement est arrivé d'un coup sur l'île, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et les mauvais côtés, ce sont principalement les déchets.
Dans son jardin, au milieu des cocotiers, des bananiers et d'autres arbres fruitiers qui apprécient le climat subtropical de l'île, elle recycle tout ce qu'elle peut et ne met à la poubelle aucun déchet végétal.
Mira. Estos son los vegetales. Y te voy a mostrar.
Voilà, ici ce sont mes déchets végétaux. Je vais te montrer.
De aquí se viene al Manabay.
Ces déchets végétaux, je les mets par exemple dans le Manabay. C'est une construction traditionnelle en pierre circulaire. On la retrouve sur toute l'île. Et je l'ai imité ici.
Aquí se vacía todo lo que son vegetales ya más grueso.
Je jette ici les déchets végétaux et je mets des feuilles sèches par-dessus pour éviter d'attirer les mouches. Venez, on va voir les vers de terre. Ça a l'air sans vie, mais regardez cette merveille. Vous voyez les vers à compost ? Je mets les déchets ménagers ici et je couvre avec du fumier sec, de la matière sèche, pour éviter les mauvaises odeurs, les mouches et les fourmis.
Ces dernières années, la municipalité a tenté d'inciter les habitants de l'île à composter au maximum leurs déchets ménagers en leur donnant près de 900 conteneurs spéciaux et en offrant des formations au compostage. La commune cherche aussi des financements pour, par exemple, tenter de produire de l'énergie à partir de ces déchets ménagers. Car pour l'instant, toute l'électricité consommée par les habitants et les touristes est issue de générateurs alimentés par du pétrole apporté depuis le Chili.
Un reportage de Justine Fontaine. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre écoute attentive et vos nombreux messages. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, on adore vous lire. Vous pourrez aussi suivre l'actualité environnementale et découvrir nos invités en vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.